Rêve d'enfer, deuxième partie. Il faisait soir et le soleil rougeâtre et mourant éclairait à peine la vallée et les montagnes. C'était à 7 heures du crépuscule où l'on voit dans les prés des fils blancs qui s'attachent à la chevelure des femmes et à leurs vêtements de dentelle et de soyeuses étoffes. C'était à 7 heures où la cigale chante de son cri aigu dans l'herbe et sous les blés. Alors on entend dans les champs des voix mystérieuses, des concerts étranges. Et puis, bien loin, le bruit d'une sonnette qui s'apaise et qui diminue avec les troupeaux qui disparaissent et qui descendent. À 7 heures, celle qui garde les chèvres et les vaches hâte son pas, court sans regarder derrière elle, et puis s'arrête de temps en temps, essoufflée et tremblante, car la nuit va venir, et l'on rencontre dans le chemin quelques hommes et des jeunes gens, et puis elle a 16 ans, la pauvre enfant, et elle a peur. Julietta rassemble ses vaches et se dirige vers le village, dont on distinguait quelques cabanes, mais ce jour-là, elle était triste. Elle ne courait plus pour cueillir des fleurs et pour les mettre dans ses cheveux. Non, plus de sauts enfantins à la vue d'une belle marguerite que son pied allait écraser, plus de chants joyeux. Ce jour-là, plus de ses notes perlées, de ses longues roulades. Non, plus de joie ni d'ivresse, plus ce joli cou blanc qui se courbait en arrière et d'où sortait en dansant une musique légère et toute chaude d'harmonie. Mais au contraire, des soupirs répétés, un air rêveur, des larmes dans les yeux et une longue promenade bien rêveuse et bien lente au milieu des herbes, sans faire attention qu'elle marche dans la rosée et que ses vaches ont disparu, tant la jeune fille est nonchalante et toute mélancolique. Que de fois dans ce jour, elle courut après son troupeau. Que de fois elle revint se rasseoir, lasse et ennuyée, et là, penser, ou plutôt, ne penser à rien. Elle était oppressée, son cœur brûlait, il désirait quelque chose de vague, d'indéterminé. Il s'attachait à tout, quittait tout. Il avait l'ennui, le désir, l'incertitude. Ennui, rêve du passé, songe sur l'avenir. Tout cela passait dans la tête de l'enfant couché sur l'herbe et qui regardait le ciel, les mains sur son front. Elle avait peur d'être ainsi seule au milieu des champs. Et pourtant, elle y avait passé son enfance, se jouant dans les bois et courant dans les moissons. Le bruit du feuillage la faisait trembler. Elle n'osait se retourner. Il lui semblait toujours voir derrière sa tête la figure de quelque démon grimaçant avec un rire horrible. Elle regarda longtemps les rayons rougeâtres du soleil qui diminuaient de plus en plus et qui décrivaient de place en place des cercles lumineux qui s'agrandissaient, disparaissaient, puis revenaient bientôt. Elle attendit que la cloche de l'église eût fini de sonner et quand ses dernières vibrations furent perdues dans le lointain, alors elle se leva péniblement, courut après son troupeau et se mit en marche pour retourner chez son père. Tout à coup, elle vit à une cinquantaine de pas une vingtaine de petites flammes qui s'élevaient de la terre. Les flammes disparurent, mais au bout de quelques minutes, Julietta les revit encore. Elles se rapprochèrent peu à peu, et puis une disparaissait, puis une autre, une troisième, et enfin la dernière qui sautillait, s'allongeait et dansait avec vivacité et folie. Les vaches s'arrêtèrent tout à coup, comme si un instinct naturel leur prescrivait de ne plus avancer, et firent entendre un beuglement plaintif qui se traîna longtemps, monotone, et puis mourut lentement. Les flammes redoublèrent, et l'on entendait distinctement des rires éclatants et des voix d'enfants. Juliette pâlit et s'appuya sur la corne d'une génisse, immobile et muette de terreur. Elle entendit des pas derrière sa tête. Elle sentit ses joues effleurées par un souffle brûlant et un homme vint se placer debout devant elle. Il était richement vêtu. Ses habits étaient de soie noire. Sa main gantée reluisait de diamants. Au moindre de ses gestes, on entendait un bruit de sonnettes argentines comme mêlées à des pièces d'or. Sa figure était laide. Ses moustaches étaient rouges ses joues étaient creuses, mais ses yeux brillaient comme deux charbons. Ils étincelaient sous une prunelle épaisse et touffue, comme une poignée de cheveux. Son front était pâle, ridé, osseux, et la partie supérieure en était soigneusement cachée par une toque de velours rouge. On eût dit qu'il craignait de montrer sa tête. « Enfant, » dit-il à Julietta, « belle enfant !» Et il l'attira vers lui d'une main puissante, avec un sourire qu'il tâchait de faire doux et qui n'était qu'horrible. « Aimes-tu quelqu'un ?»«
Oh, laissez-moi !» dit la jeune fille. « Je me meurs entre vos bras. Vous m'écrasez !»«
Mais quoi ? Personne ?» continua le chevalier. « Oh, tu aimeras quelqu'un, car je suis puissant, moi. Je donne la haine et l'amour. Tiens, asseyons-nous ici, » continua-t-il, « sur le dos de ta vache blanche. » Celle-ci se coucha sur le côté et prêta le flanc. L'inconnu s'assit sur son cou. Il tenait d'une main une de ses cornes et de l'autre la taille de Julietta. Les feux follets avaient cessé. Le soleil n'éclairait plus. Il faisait presque une nuit et la lune, pâle et faible, luttait avec le jour. Julietta regardait l'étranger avec terreur. Son regard était terrible.
« Laissez-moi, » dit-elle. « Oh, laissez-moi, au nom de Dieu !»«
Dieu ?» reprit-il amèrement. Et il se mit à rire. « Julietta, » continua-t-il, « connais-tu le duc Arthur d'Almoroès ?» Je l'ai vu quelquefois, mais c'est comme de vous, j'en ai peur.
Laisse-moi, laisse-moi, il faut que je m'en aille. Mon père, oh, s'il savait.
Ton père, eh bien.
S'il savait, vous dis-je, que vous me retenez ainsi le soir, mais il vous tuerait.
Je te laisse libre, Julietta, pars. Et il laissa tomber son bras qui la tenait vivement étreinte. Elle ne put se lever. Quelque chose l'attachait au ventre de l'animal, qui geignait tristement et humectait l'herbe de sa langue baveuse. Il râlait et remuait sa tête sur le sol comme s'il se mourait de douleur. « Eh bien, Julietta, pars ! Qui t'en empêche ?» Elle s'efforça encore, mais rien ne put lui faire faire un mouvement. Sa volonté de faire se brisait devant la fascination de cet homme et son pouvoir magique.
« Qu'êtes-vous donc ? » lui dit-elle. « Quel mal vous ai-je fait ?»«
Aucun. Mais parlons du duc d'Arthur d'Almoroès. N'est-ce pas qu'il est riche, qu'il est beau ?» Ici, il se tut, se frappa le front de ses deux mains. « Ah, qu'il vienne donc !» Et puis ils restèrent ainsi tous deux longtemps, bien longtemps, la jeune fille tremblante, et lui, l'œil fixé sur elle et la contemplant avidement. « Es-tu heureuse ?» lui demanda-t-il.
« Heureuse ? Oh non.
Que te faut-il ?
Je ne sais, mais je n'aime rien. Rien ne me plaît, surtout aujourd'hui. Je suis bien triste. Et ce soir encore, votre air méchant, oh, je deviendrai folle.
N'est-ce pas, Julietta, que tu voudrais être reine ?
Non.
N'est-ce pas, Julietta, que tu aimes l'église et son encens, sa haute nef, ses murailles noircies et ses chants mystiques ?
Non.
Tu aimes la mer, les coquilles au rivage, la lune au ciel et des rêves dans tes nuits ?
Ah oui, j'aime tout cela.
Et qui rêves-tu dans tes nuits, Julietta ?
Que sais-je ?
Et elle devint toute pensive. « N'est-ce pas que tu souhaites une autre vie, des voyages lointains ? N'est-ce pas que tu voudrais être la feuille de rose pour rouler dans l'air ? Être l'oiseau qui vole, le chant qui se perd, le cri qui s'élance ? N'est-ce pas que le duc Arthur est beau, riche et puissant ? Et lui aussi, il aime les rêves, les sublimes extases. « Oh, qu'il vienne !» continua-t-il tout bas. « Qu'il vienne !» Elle l'aimera, et d'un amour chaud, brûlant, entier, ils se perdront tous deux. La lune roulait sous les nuages, elle éclairait la montagne, la vallée, le vieux château gothique, dont la sombre silhouette se dessinait au clair de lune, comme un fantôme sur le mur du cimetière. « Levons-nous, » dit l'inconnu, « et marchons. » L'étranger prit Julietta et l'entraîna sur ses pas. Les vaches bondissaient et galopaient dans les champs. Elles couraient éperdues, les unes après les autres, puis revenaient autour de Julietta en sautant et en dansant. On n'entendait que le bruit de leurs pas sur la terre et la voix du cavalier aux éperons d'or qui parlait et parlait toujours d'un son singulier comme un orgue. Il y avait longtemps qu'il marchait ainsi. Le chemin était facile et il marchait rapidement sur l'herbe fraîche, glissante sous les pieds comme une glace polie. Julietta était fatiguée. Ses jambes s'affaissaient sous son corps. « Quand arriverai-je » demandait-elle souvent. Et son regard mélancolique s'élançait dans l'horizon qui ne lui offrait qu'une obscurité profonde. Enfin, elle reconnut, après bien longtemps, la masure de son père. L'étranger était toujours à ses côtés. Il ne disait plus rien, seulement son visage était gai, et il souriait comme un homme heureux. Quelques mots d'une langue inconnue s'échappaient de ses lèvres, et puis il prêtait l'oreille attentivement, silencieux et la bouche béante. « Aimes-tu le duc Arthur ? » demanda-t-il encore une fois. « Je le connais à peine, et puis que vous importe ?»« Tiens, le voilà, » lui dit-il. En effet, un homme passa devant eux. Il était nu jusqu'à la ceinture. Son corps était blanc comme la neige. Ses cheveux étaient bleus et ses yeux avaient un éclat céleste. L'inconnu disparut aussitôt. Julietta se mit à courir. Puis, arrivée à une porte en bois, entourée d'une haie, elle se cramponna au marteau de fer et sonna à coups redoublés. Un vieillard vint ouvrir. C'était son père. « Pauvre enfant !» lui dit-il. « D'où viens-tu ? Entre !» Et la jeune fille aussitôt se précipita dans la maison où sa famille l'attendait depuis plusieurs heures, avec angoisse. Chacun aussitôt poussa des cris de joie. On l'embrassa, on la questionna, et l'on se mit à table autour d'un énorme pot en fer d'où s'exhalait une vapeur épaisse. « As-tu ramené les vaches ?» lui demanda sa mère. Et sur sa réponse affirmative, elle lui prescrit d'aller les traire. Julietta sortit et revint au bout de quelques minutes, apportant un énorme seau de fer blanc qu'elle déposa avec peine sur la table. Mais c'était du sang.
« Ciel, du sang !»
s'écria Julietta. Elle devint pâle et tomba sur les genoux de sa mère.
« C'est lui !»«
Qui ?»«
Lui, enfin, lui qui m'a retardée. »«
Qu'est-ce ?»«
Je ne sais. »
« C'est moi !» s'écria une voix qui parlait du fond de l'appartement avec un rire perçant. En effet, l'étranger et le duc Arthur étaient collés contre la muraille. Le vieillard sauta sur son fusil accroché dans sa cheminée et les ajusta.
« Grâce pour lui !»
s'écria Julietta en se jetant violemment autour de son cou. Mais la balle était partie. On n'entendait plus rien. Les deux fantômes disparurent. Seulement, au bout de quelques instants, une vitre se cassa et une balle vint rouler sur les pavés. C'était celle que Satan renvoyait. Tout cela était étrange. Il y avait là-dessous quelques sorcelleries, quelques pièges magiques. Et puis ce lait changé en sang, cette apparition bizarre, le retard de Julietta, son regard effaré, sa voix chevrotante, et cette balle qui venait rebondir autour d'eux, avec leur rire sinistre échappé du mur, tout cela fit pâlir et trembler la famille. On se serra les uns contre les autres et l'on se tut aussitôt. Julietta s'appuya la tête dans la main gauche, posa le coude sur la table et défaisant le ruban qui retenait ses cheveux, elle les laissa tomber sur ses épaules, puis ouvrant les lèvres, elle se mit à chanter entre ses dents, bien bas, il est vrai. Elle murmurait un vieux refrain, aigre et monotone, qui sortait en sifflant. Elle se balançait légèrement sur la chaise, paraissait vouloir s'endormir au son de sa voix. Son regard était insignifiant et à demi fermé. Sa tenue était nonchalante et rêveuse. On l'écoutait avec étonnement. Et c'était toujours les mêmes sons, aigus et faibles, le même bourdonnement. Puis peu à peu, il s'apaisa et devint si faible et si grêle qu'il mourut entre ses dents. La nuit se passa ainsi, triste et longue, car chacun n'osait remuer de sa place, n'osait dire une parole, ni regarder derrière soi. Le vieillard s'assoupit profondément dans son fauteuil de bois. Sa femme ferma bientôt les yeux de crainte et d'ennui. Quant à ses deux fils, ils baissèrent la tête dans leurs mains et cherchèrent un sommeil qui ne vint que bien tard, mais troublé par des rêves sinistres. Il eût fallu voir toutes ces têtes sommeillantes et abattues, réunies autour d'une lumière mourante qui éclairait leur front soucieux d'une teinte pâle et lugubre. Celle du vieillard était grave, sa bouche était entr'ouverte, son front était couvert de ses cheveux blancs, et ses mains décharnées reposaient sur ses cuisses. La vieille femme qui était posée devant lui tournait de temps en temps la tête de côté et d'autre. Son visage était ridé par une singulière expression de malheur et d'amertume. Et puis il y avait la figure pâle et paisible de Julietta, avec ses longs cheveux blonds qui balayaient la table, sa chanson monotone qui sifflait entre ses dents blanches et son regard doux et enivré. Elle ne dormit pas, mais elle passa les heures de la nuit à écouter le beuglement plaintif de sa vache blanche qui, renfermée dans son étable, souffrait aussi la pauvre bête et se tordait peut-être d'agonie sur sa litière humide de sueur. En effet, quand le jour fut venu et que Julietta sortit pour l'aller faire paître dans les champs, elle portait sur le cou l'empreinte d'une griffe. Elle sortit, monta la colline d'un pas rapide. Arrivée au haut, elle s'assit, mais le bas de ses vêtements et ses pieds ruisselaient. Elle avait marché dans la rosée, tant ce jour, elle était folle et dormeuse tout à la fois. Elle courait, puis s'arrêtait tout à coup, portait sa main à son front et regardait de tous côtés s'il n'allait pas venir. Il, car elle l'aimait, la pauvre enfant. Elle aimait un grand seigneur, riche, puissant, qui était beau cavalier, avec des yeux fiers et un sourire hautain. Elle aimait un homme étrange, inconnu, un démon incarné, une créature, pensait-elle, bien élevée et bien poétique. Non, rien de tout cela, car elle aimait le duc Arthur d'Almaroès. D'autres fois, elle retombait dans ses rêveries et souriait amèrement, comme en doutant de l'avenir. Et puis, elle pensait à lui. Elle se le créait là, assis sur l'herbe perlée à côté d'elle. Il était là, là, lui disant de douces paroles, la regardant fixement de son regard puissant, et sa voix était douce et pure, était vibrante d'amour. C'était une musique toute nouvelle et toute sublime. Elle resta ainsi longtemps, les yeux fixés sur l'horizon qui lui apparaissait toujours aussi morne, aussi vide de sens, aussi stupide. Le soir arriva enfin, après ce long jour d'angoisse, aussi long que la nuit qui l'avait précédé. Julietta resta encore longtemps après le coucher du soleil, et puis elle revint. Elle descendit lentement la montagne, s'arrêtant à chaque pas et écoutant derrière elle, et elle n'entendait que la cigale qui sifflait sous l'herbe et l'épervier qui rentrait dans son nid en volant à tire-d'aile. Elle s'en allait donc ainsi, triste et désespérée, la tête baissée sur son sein tout gonflé de soupirs, tenant de sa main gauche la corde toute humide qui tenait sa pauvre vache blanche qui boitait de l'épaule droite. C'était sur celle-là que Satan s'était assis. Arrivée à l'endroit où l'inconnu l'avait quitté la veille et où le duc Arthur lui était apparu, elle s'arrêta instinctivement, retint fortement sa génisse qui, luttant naturellement contre elle, l'entraîna de quelques pas. Arthur se présenta aussitôt. Elle lâcha la corde, et la vache se mit à bondir et à galoper vers son étable. Julietta le regarda avec amour, avec envie, avec jalousie. Il passa en la regardant comme il regardait les bois, le ciel, les champs. Elle l'appela par son nom. Il fut sourd à ses cris, comme au bêlement du mouton, au chant de l'oiseau, aux aboiements du chien.
« Arthur !»
lui dit-elle avec désespoir.
« Arthur ! Oh, Arthur, écoute !»
Et elle courut sur ses pas et se traîna à ses vêtements. Et elle balbutiait en sanglotant. Son cœur battait avec violence. Elle pleurait d'amour et de rage. Il y avait tant de passion dans ses cris, dans ses larmes, dans cette poitrine qui se soulevait avec fracas, dans cet être faible et aérien qui se traînait les genoux sur le sol. Tout cela était si éloigné des cris d'une femme pour une porcelaine brisée, du bêlement du mouton, du chant de l'oiseau, de l'aboiement du chien, qu'Arthur s'arrêta, la regarda un instant, et puis il continua sa route.
« Arthur, écoute de grâce un instant, car je t'aime, je t'aime. Oh, viens avec moi, nous irons vivre ensemble sur la mer, loin d'ici. Ou bien, tiens, nous nous tuerons ensemble. »
Arthur marchait toujours.
« Écoute, Arthur, mais regarde-moi. Je suis donc bien hideuse, bien laide. Tu n'es donc pas un homme, toi, que ton cœur est froid comme le marbre et dur comme la pierre. »
Elle tomba à ses genoux, à ses pieds, en se renversant sur le dos comme si elle allait mourir. Elle mourait, en effet, d'épuisement et de fatigue. Elle se tordait de désespoir et voulait s'arracher les cheveux. Et puis elle sanglotait avec un rire forcé, des larmes qui étouffaient sa voix. Ses genoux étaient déchirés et couverts de sang à se traîner ainsi sur les cailloux. Car elle aimait d'un amour déchirant, entier, satanique. Cet amour la dévorait toujours. Il était furieux, bondissant, exalté. C'était bien un amour inspiré par l'enfer, avec ses cris désordonnés, ce feu brûlant qui déchire l'âme, use le cœur. Une passion satanique, toute convulsive et toute forcée, si étrange qu'elle paraît bizarre, si forte qu'elle rend fou.
À demain, n'est-ce pas, Arthur ? Une grâce, une grâce ! Et je te donnerai tout après. Mon sang, ma vie, mon âme, l'éternité si je l'avais. Tu me tueras si tu veux, mais à demain sur la falaise, n'est-ce pas, au clair de lune.
La belle chose qu'une nuit d'amour sur les rochers, au bruit des flots, n'est-ce pas, Arthur,
à demain.
Et il laissa tomber nonchalamment de ses lèvres dédaigneuses deux mots. À demain. À demain, oh demain. Et elle courut comme une folle vers la falaise. On ne la revit plus dans le village. Elle avait disparu du pays. Satan l'avait emportée. Il faisait nuit, la lune brillait, pure et blanche, et dégagée de ses nuages, sa lumière éclairait le cabinet d'Arthur, dont il avait laissé la fenêtre ouverte. Il se penchait sur la rampe de fer et humait avec délice l'air frais de la nuit. Il entendit ce même bruit de pattes fines et légères sur les carreaux de son fourneau. Il se retourna. C'était Satan, mais cette fois plus hideux et plus pâle encore. Ses flancs étaient amaigris, et sa gueule béante laissait voir des dents verdâtres comme l'herbe des tombeaux. « Eh bien, Satan, lui dit Arthur, eh bien, est-il vrai maintenant que j'aime quelqu'un ? Crois-tu que j'ai été ému par ses cris, par ses larmes et par ses convulsions forcées ? Vraiment ? Lui répondit le démon en frémissant sur ses quatre pattes. « Vraiment, tu es donc bien insensible, et tu l'as laissée mourir. »« Elle est morte ?» dit Arthur en le regardant froidement. « Non, mais elle t'attend. »«
Elle m'attend ?»«
Oui, sur la falaise. Ne l'avais-tu pas promis ? Il y a longtemps qu'elle y est, elle t'attend. »«
Eh bien, j'irai. »«
Tu iras. »«
Eh bien, Arthur ?» Je ne te demande que cette dernière grâce. Après, tu feras de moi tout ce qu'il te plaira, je t'appartiens.
Et que veux-tu que je fasse ?
Crois-tu que je tienne beaucoup à ton âme, moi ? Tu l'aimeras, te dis-je.
Arthur, ne m'as-tu pas dit que tu voudrais avoir des passions, un amour fort et brûlant, étranger des autres amours ? Eh bien, tu l'aurais, cet amour. Mais moi, à mon tour, n'est-ce pas ? Tu me donneras ton âme.
Mais je n'en ai pas.
Tu le crois, mais tu en as une, car tu es un homme puisque tu aimeras. » Satan était habitué à avoir tant d'orgueil et de vanité qu'il ne croyait qu'à cela. Le malheur ne voit que le vice, l'affamé ne sent que la faim. Un homme, Satan, dit, en as-tu vu des hommes qui puissent s'étendre dans les airs jusqu'aux nuages? Et il déploya ses ailes vertes. En as-tu vu des cheveux comme cela? Et il montra sa chevelure bleue. As-tu vu chez aucun d'eux un corps blanc comme la neige, une main aussi forte que celle-là, Satan? Et lui serrait fortement la peau entre ses ongles. Enfin, il y en a-t-il qui osent jamais t'insulter ainsi? Puisque tu désires mon âme, tue-moi, de suite. Écrase ma tête en tes dents. Déchire-moi de tes griffes, essaie, et vois si je suis un homme. Et Satan bondissait sur le pavé, il écumait de rage et dans ses sauts convulsifs, il allait se frapper les reins sur le plafond. Arthur était paisible. « Satan, lui dit-il, tu es fort, en effet, tu es puissant. Je sens que tu peux m'anéantir d'un seul coup. Essaie, essaie. Ah, de grâce, tue-moi. Oui, j'ai une âme, je te la donne, mon âme. Tue-moi, cela t'est facile, car je ne suis qu'un homme. » Le démon sauta sur sa gorge avec un cri infernal qui partait de ses entrailles. Il voulut le saisir, la peau lui glissa sous les dents. Arthur se dégagea la poitrine. Satan s'élança d'un bond furieux, les griffes en avant. Il retomba sans pouvoir effleurer l'épiderme qui était intact et poli. Il bondissait, furieux, éperdu. Un aboiement rauque courait sur ses lèvres ensanglantées. Ses yeux flamboyaient, il trépignait. Arthur se coucha sur le sol et tendit ses ailes. Satan glissait dessus. Il s'y traînait, il rampait, ouvrait la gueule pour le déchirer. Ses griffes s'usaient comme à déchirer un roc. Il bavait, haletant, rouge de colère. Pour la première fois, il se trouvait vaincu. Et puis l'autre riait mollement. Et ce rire paisible était éclatant, sonore, et comme mêlé à un bruit de fer. Le souffle bruyant qui s'exhalait de sa gorge repoussait Satan, comme la furieuse vibration d'une cloche d'alarme qui bondit dans la nef, rugit, ébranle les piliers et fait tomber la voûte. Il fallait voir aux prises ces deux créatures, toutes bizarres, toutes d'exception, l'une toute spirituelle, l'autre charnelle et divine dans sa matière. Il fallait voir en lutte l'âme et le corps, et cette âme, cet esprit pur et aérien, rampant, impuissant et faible devant la morgue hautaine de la matière brute et stupide. Ces deux monstres de la création se trouvaient en présence comme pour se haïr et se combattre. C'était une guerre acharnée, à mort, une guerre terrible, et qui devait finir entre eux, comme chez l'homme, par le doute et l'ennui. C'étaient deux principes incohérents qui se combattaient en face. L'esprit tomba d'épuisement et de lassitude devant la patience du corps. Et qu'ils étaient grands et sublimes, ces deux êtres, qui réunis ensemble auraient fait un dieu, l'esprit du mal et la force du pouvoir. Que cette lutte était terrible et puissante, avec ses cris d'enfer, ses rires furieux, et puis tout l'édifice en ruine qui tremblait sous les pas et dont les pierres remuaient comme dans un rêve. Enfin, quand Satan eut bien des fois sauté et retombé sur le sol, haletant et fatigué, l'œil terne, la peau humide d'une sueur glaciale, les griffes cassées, quand Arthur l'eut contemplé longtemps, épuisé de rage et de colère, rampant tristement à ses pieds, quand il eut savouré longtemps le râle qui s'échappait de sa poitrine, quand il eut compté les soupirs d'agonie qu'il ne pouvait retenir et qui lui brisaient le cœur, enfin, quand, revenu de sa cruelle défaite, Satan leva la tête défaillante vers son vainqueur. Il trouva encore ce regard d'automate froid et impassible qui semblait rire dans son dédain. « Et toi aussi ?» lui dit Arthur. « Tu t'es laissé vaincre comme un homme, et par orgueil encore. Crois-tu maintenant que je dis vrai ? Tu n'es peut-être pas un homme, dit Satan, mais tu as une âme. Eh bien, Satan, j'irai demain sur la falaise. Et le lendemain, quand le concierge fit sa tournée dans les corridors, il trouva que les dalles étaient dérangées et usées toutes, de place en place, comme par une griffe de fer. Le brave homme en devint fou. Julietta attendait le duc. Elle l'attendait jour et nuit, courant sur les rochers. Elle l'attendait en pleurant. Elle l'attendait depuis 4 années. Car les ans passent vite dans un récit, dans la pensée, et coulent vite dans le souvenir, mais ils sont lents et boiteux dans l'espérance. Le jour, elle se promenait sur la plage, écoutait la mer, et regardait de tous côtés s'il n'allait pas venir. Et puis, quand le soleil avait échauffé les roches, quand, épuisée, elle tombait de fatigue, alors elle s'endormait sur le sable et puis se relevait pour aller cueillir des fruits, chercher le pain que des âmes charitables déposaient dans une fente de rocher. La nuit, elle se promenait sur les falaises, errant ainsi avec ses longs vêtements blancs, sa chevelure en désordre et des cris de douleur. Et elle restait assise des heures entières sur un roc aigu, à contempler au clair de lune les vagues brisées qui venaient mourir sur la grève, émoussées en blanches écumes entre les rochers et les galets. « Pauvre folle, disait-on, si jeune et si belle, 20 ans à peine et plus d'espoir. Dame, c'est sa faute aussi, elle est folle d'amour, d'amour pour un prince, c'est l'orgueil qui l'a perdue, elle s'est donnée à Satan. » Oui. Bien folle en effet d'aimer le duc Arthur, bien folle de ne point étouffer son amour, bien folle de ne point se tuer de désespoir. Mais elle croyait à Dieu et elle ne se tua pas. Il est vrai que souvent elle contemplait la mer et la falaise haute de 100 pieds et puis qu'elle se mettait à sourire tout bas avec une grimace des lèvres qui faisait peur aux enfants. Bien folle de s'arrêter devant une idée de croire à Dieu, de le respecter, de souffrir pour son plaisir, de pleurer pour ses délices. Croire à Dieu, Julietta, c'est être heureuse. Tu crois à Dieu et tu souffres. Ah, oh, tu es bien folle, en effet. Voilà ce que diront les hommes. Mais non, au désespoir avait succédé l'abattement, aux cris furieux, les larmes. Plus d'éclairs de voix, de profonds soupirs, mais des sons dits tout bas et retenus sur les lèvres, de peur de mourir en les criant. Ses cheveux étaient blancs, car le malheur vieillit. Il est comme le temps, il court vite, il pèse lourd et il frappe fort. Mais plus encore, il faut moins de larmes au désespoir pour amaigrir un homme que de gouttes d'eau à la tempête pour creuser la pierre d'une tombe. Les cheveux se blanchissent en une nuit. Ses cheveux étaient blancs, ses habits déchirés, mais ses pieds s'étaient durcis à marcher sur la terre, à s'écorcher aux ronces et aux chardons. Ses mains étaient crevassées par le froid et par l'air âpre de l'océan qui dessèche et qui brûle comme les gelées du nord. Et puis elle était pâle, amaigrie, avait les yeux creux et ternes que vivifiait encore un rayon d'amour, qu'éclairait une étincelle d'enfer. Sa bouche était entr'ouverte, et comme contractée par un mouvement des lèvres involontaires et convulsifs. Mais elle avait toujours le teint doré et brûlé du soleil. Elle avait toujours ce regard étrange qui séduit et qui attire. C'était toujours cette âme sublime et passionnée que Satan avait choisie pour tenter la matière endormie, le corps dénué de sens, la chair sans volupté. Quand elle voyait un homme, elle courait vers lui, se jetait à ses pieds, l'appelait Arthur, et puis s'en retournait triste, désespérée, en disant « Ce n'est pas lui, il ne vient pas. » Et l'on disait « Oh, la pauvre folle, si jeune et si belle, 20 ans à peine et plus d'espoir. » C'était par une nuit belle, radieuse d'étoiles, toute blanche, toute azurée, toute calme comme la mer qui était tranquille et douce, qui venait battre légèrement les rochers de la falaise. Julietta était là, toujours rêveuse et solitaire, et puis je ne sais si c'est un songe, mais Arthur lui apparut. Arthur, homme est toujours froid, toujours calme. « Je t'attends, lui dit Juliette. Il y a longtemps que je suis au rendez-vous. » Sa voix tremblait. « Assieds-toi avec moi sur cette roche, ô mon Arthur. Assieds-toi. Que te faut-il? La lune est belle, les étoiles brillent, la mer est calme. Il fait beau ici, Arthur. Oh, assieds-toi et causons. » Arthur s'étendit à côté d'elle. « Que me veux-tu, Julietta ? » lui dit-il. « Pourquoi es-tu plus triste que les autres femmes ? Pourquoi m'as-tu demandé à venir ici ?»«
Pourquoi ? Oh, Arthur, mais je t'aime. »«
Qu'est-ce ? » ?»«
Et quoi ? Quand je te regarde ainsi, tiens, avec ce sourire. »
Et elle passa son bras autour de sa taille. « Quand tu sens mon haleine, quand de mes cheveux j'effleure ta bouche, eh bien, dis, est-ce que tu ne sens pas là, sur la poitrine, quelque chose qui bat et qui respire ?»«
Non, non. Mais tu es une femme, toi. Tu as une âme, oui, je comprends. Moi, je n'ai pas d'âme. »
Il la regarda avec fierté. « Et qu'est-ce que c'est que l'âme, Juliette ?»«
Que sais-je ? Mais je t'aime. Oh, l'amour, l'amour, Arthur ! Tiens, vous blanchis les cheveux, les miens. »
Elle le contempla, se traîna sur sa poitrine, elle l'accabla de ses baisers, de ses caresses. Et lui, il restait toujours calme sous les embrassements, froid sous les baisers. Il fallait voir cette femme, s'épuisant d'ardeur, prodiguant tout ce qu'elle avait de passion, d'amour, de poésie, de feu dévorant et intime, pour vivifier le corps léthargique d'Arthur, qui restait insensible à ses lèvres brûlantes, à ses bras convulsifs, comme l'attouchement du lézard au contact de la brute. Julietta était bondissante d'amour, comme Satan l'était de rage et de colère. Elle passa bien des heures sur les joues d'Arthur, qui regardait le ciel azuré, qui pensait sans doute aussi à des rêves sublimes, à des amours sans penser qu'il avait là, devant lui, dans ses bras, une réalité céleste, un amour d'exception, tout brûlant et tout exalté. Julietta. Il la laissa tomber, épuisée. Puis elle tenta un dernier effort et courut vers les rochers les plus élevés et s'élança d'un seul bond. Il se fit un silence de quelques secondes et Arthur entendit le bruit d'un corps lourd qui tombe dans l'eau. Et la nuit était belle. Toute calme, toute azurée comme la mer. Elle était douce, tranquille, et ses vagues venaient mourir mollement sur la plage. Et puis les vagues roulaient, tombaient, et apportaient sur les rivages des coquilles, de la mousse et des débris de navires. Une vint rouler longtemps. Elle s'étendit au loin, puis se recula, puis revint. Elle déposa quelque chose de lourd et de grand. C'était un cadavre de femme. « Eh bien, » dit Arthur en regardant Satan. Et quand celui-ci eut vu que son front était toujours pâle et uni, que son œil était sec et sans larmes, « Non, non, tu n'as pas d'âme. Je me suis trompé, » continua-t-il en le regardant avec envie. « Mais j'aurai celle-là. » Et il enfonça son pied crochu dans la gorge du cadavre. Et plusieurs siècles se passèrent. La terre dormait d'un sommeil léthargique, point de bruit à sa surface, et l'on n'entendait que les eaux de l'océan qui se brisaient en écumant. Elles étaient furieuses, montaient dans l'air en tourbillonnant, et le rivage remuait à leurs secousses comme entre les mains d'un géant. Une pluie fine et abondante obscurcissait la lumière douteuse de la lune. Le vent cassait la forêt et les cieux pliaient sous leur souffle comme le roseau à la brise du lac. Il y avait dans l'air comme un bruit étrange de larmes et de sanglots. On eût dit le râle d'un monde. Et une voix s'éleva de la terre et dit « Assez, assez, j'ai trop longtemps souffert et ployé les reins. Assez, Ô grâce, ne crée point d'autre monde. Et une voix douce, pure, mélodieuse comme la voix des anges s'abattit sur la terre et dit « Non, non, c'est pour l'éternité, il n'y aura plus d'autre monde. »